Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Patrick Cohen.
Quand je vous ai reçu l'an dernier pour votre formidable atlas historique mondial, j'avais prédit qu'on dirait bientôt le Grataloup, comme on dit le Larousse ou le petit Robert. Merci. Voici donc un deuxième Grataloup, cet atlas historique de la France, 320 cartes de France qui racontent la façon dont s'est construit notre pays, de la France d'avant la France, hein. Il y a même des cartes sur les sites préhistoriques jusqu'au début du 21e siècle, avec des thèmes qu'on n'avait, je crois, jamais vus en cartes. La peste de Marseille en 1720, l'affaire Dreyfus, les destructions de la Seconde Guerre, etc. On est surpris et intéressé à chaque page. Quelle est la principale difficulté d'un tel travail ? Récupérer et croiser des données ou rendre cette histoire visible et lisible ?
Alors, la principale difficulté, c'est l'histoire de la France, c'est-à-dire de concevoir quelque chose qui puisse permettre à tout un chacun de reconstruire son histoire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 1000 histoires qui étaient présentes. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que le moule unique, le roman national, on peut le retrouver. Il y a tous les éléments pour. On a Vercingétorix et Jeanne d'Arc, Napoléon et De Gaulle. Il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi construire tout un tas d'autres histoires, les compléter, de manière à avoir une histoire commune et plurielle. Alors c'est effectivement de construire une histoire de la France, ce qui fait que il y a quelques années, Duby par exemple, il y a 40 ans, avait fait une histoire de la France, il avait bien dit de la et pas de France, qui commençait au Xe siècle. C'était ça qui était nouveau, parce que c'est vrai qu'avant le XIIIe, il est difficile de parler d'histoire de la France. C'est même vraiment au XVe qu'on peut vraiment dire, là, la France existe. Oui, il y a un État français. Il n'y a pas encore vraiment une société française, mais il y a un État français. Tandis qu'en même temps, il faut tenir compte de tous les patrimoines que l'on va réutiliser pour construire cette histoire de la France. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on est peut-être plus apaisé. On a pu mettre aussi bien les Gaulois que les Mérovingiens ou Charlemagne, sachant que ce n'est pas la France. Mais que c'est de ces différentes sociétés dont peut procéder la France.
Voilà, il y a les premiers sites paléolithiques. Il y a des cartes très attendues, mais qui ne sont pas moins indispensables. La guerre de 14, les guerres napoléoniennes. Mais grâce à vous, on comprend les mouvements de la guerre de 100 ans, ce qui n'est pas simple. On mesure le choc de la grande peste de 1347. On voit la première mondialisation avec les expéditions du XVIe siècle, les circuits de la traite et de l'esclavage. Sur certains thèmes, vous êtes vraiment pionnier. Il n'y a jamais eu de cartes sur thèmes que vous avez traités.
Il y a beaucoup de cartes qui sont tout à fait nouvelles, soit parce que c'est des thèmes que les historiens n'avaient pas beaucoup travaillé. Par exemple, la peste de Marseille est liée vraiment à un travail de thèse qui a été fait.
Alors ça, c'est formidable parce qu'on effectivement les morts à Marseille, à Toulon, le mur qui a été érigé.
Le mur qui entoure Marseille. Les murs plus loin, en particulier le mur de la peste qui entoure le Comtat Venaissin, qui existe toujours aujourd'hui.
C'est les papes qui avaient fait faire ça, non ? Non, non, le mur.
C'est un mur qui entoure le Comtat Venaissin, qui n'était pas la France.
Venaissin,
c'était le Vaucluse actuel, voilà. qui était le territoire pontifical.
Voilà, les papes.
Et ils se sont protégés.
Exactement.
C'était pas ça. Le virus est passé quand même.
Oui.
Mais il y a quand même une volonté de se protéger qui a quand même empêché la peste de devenir européenne.
Absolument.
C'est Wuhan, si vous voulez.
Donc voilà, donc tout ça, ça ne s'était jamais traduit.
Voilà, l'affaire Dreyfus, c'est aussi tout à fait nouveau, voilà. De penser, parce qu'il y a des moments de fondateurs sur la centralisation Louis XIVienne, sur les massifs de granit que Napoléon a voulu construire, les préfectures, les lycées, le code civil, et puis sur les fondements de la Troisième République, donc l'affaire Dreyfus, entre autres, mais aussi les lois de 1901-1905, la querelle des inventaires, c'est des choses sur lesquelles... Il fallait revenir parce que ce sont des éléments fondateurs et qui sont généralement pas cartographiés.
Et ce n'est pas seulement une histoire politique, c'est un pays qui change et se construit, qu'on observe au fil des pages. Par exemple, la construction du réseau routier au XVIIIe siècle, 50 ans de travaux avant la Révolution. En 1715, il faut 15 jours pour aller de Paris à Bordeaux. En 1789, 5 jours seulement.
Et oui, les progrès ont commencé d'abord dans les techniques traditionnelles. C'est vrai dans l'industrie pour le textile, et non pas la métallurgie. C'est vrai dans les transports. Avant les voies ferrées, il y a eu l'amélioration des routes et des canaux. Et le XVIIIe siècle, avec les ponts et chaussées, la création de l'école, du corps des ingénieurs, la France a été tout à fait pionnière. Il y a eu un réseau de routes qui ont été formidables, et qui d'ailleurs ont ensuite retardé l'arrivée des autoroutes au milieu du XXe siècle.
On voit le développement de l'industrie, celui du tourisme, une carte étonnante sur la menace des loups sur le territoire, les loups qui ont dévoré des milliers d'hommes, oui, des aussi, milliers d'humains jusqu'au 19e siècle.
Là aussi, il y a une recherche derrière. Hein, effectivement, c'est, les loups ont été un risque, un danger. Et la carte est très surprenante parce que ce n'est pas là où on l'attend. C'est-à-dire que ce n'est pas là où il y a des loups aujourd'hui.
Ils étaient aux portes de Paris, entre autres.
Ah, tout à fait, oui, oui. Comme dans la chanson d'Adjani.
Oui, enfin, là, ils ne sont pas encore complètement rentrés dans Paris. Mais par exemple, sur la Beauce, le sud-ouest du bassin parisien est une zone infestée de loups et beaucoup d'hommes ont été tués ou dévorés par les loups.
Les loups sont d'ailleurs en général, s'attaquent pas aux hommes parce que c'est dangereux, mais ils peuvent y prendre goût.
Oui, ils profitent des guerres.
Voilà, dès qu'il y a des guerres et des disettes et qu'il y a des cadavres à disposition, oui, les loups deviennent anthropophages.
La fuite à Varennes fait l'objet d'un graphique plutôt que d'une carte avec le trajet de Louis XVI et celui de ses poursuivants. C'est assez
amusant. Il y a du suspense.
Absolument. On regarde avec intérêt quelles ont été les terres d'immigration dans les années 30. C'est pour beaucoup le pourtour méditerranéen. Et dans les années 80, c'est très différent.
Tout à fait. On a insisté sur l'histoire de la population française. Il y a d'ailleurs un grand graphique récapitulatif au début de la troisième partie qui n'est plus le récit historique cette fois-ci, où on a essayé de bien construire la population avec ses apports constants. Et je présente d'ailleurs publiquement mes excuses parce que les Polonais dans les années 20 ont disparu du graphique. Ils ont tout de suite réagi, je peux vous dire.
Ah bon ?
Et j'en suis meurtri parce qu'il y était au départ. Hein. Je ne sais pas quelle bourde on a fait, mais bon. Donc j'en suis désolé. Mais en dehors de cet apport, on voit tous les apports qu'il y a pu y avoir des peuples et qui constituent le peuple français.
Absolument. Il y a les cartes électorales, vous en avez parlé, de Gaulle à Mitterrand, celle de mai 68, une carte des fromages, des produits laitiers, et puis on voit aussi, ça c'est dans le passé, quelle était la France du beurre, de l'huile et du saindoux.
Oui, alors parce que la troisième partie est une partie qui n'est pas au passé, si j'ose dire, c'est au présent.
Du passé,
voilà. Mais voir comment on utilise le passé. Entre autres, par exemple, il y a les discours des présidents de la République qui ont des références historiques. Ça ne cesse de se développer d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est une inflation dans ce domaine. Mais de voir comment les Français se rattachent à leur histoire, alors il y a des choses qu'on pouvait attendre, hein, comme la légende napoléonienne. Il y a les monuments classés, par exemple, y compris par le patrimoine mondial. Mais il y a aussi des pratiques qui sont parfois un peu curieuses. Par exemple, la dimension historique des sites touristiques. Hein, c'est les vieux sites touristiques qui deviennent à leur tour des objets d'histoire et de mémoire historique. Les stades, on a tenu à mettre les stades historiques, type Geoffroy Guichard.
Et la pratique sportive en France, bien sûr.
Donc, qui sont des lieux d'histoire. Et donc, de voir comment les Français construisent leur rapport au passé. Et ce sont des rapports multiples.
Les lieux de mémoire. Et pour ce qui est des monuments historiques, on découvre par exemple, moi ça m'a frappé dans cette carte, l'incroyable densité de monuments dans le Périgord, entre Cahors, Agen et Périgueux. C'est une zone qui concentre énormément
de monuments. Oui, et puis la préhistoire. La préhistoire dope beaucoup le Périgord. Si je veux dire, parce que la France a été un peu la patrie fondatrice de la préhistoire. Donc on a tôt et beaucoup cherché des traces du paléolithique, et on les a trouvées, d'où Cro-Magnon. Hein, donc vous avez des grottes particulièrement célèbres en France, qui sont des hauts lieux, et toute personne qui s'intéresse à la préhistoire dans le monde se doit à un moment donné de faire le pèlerinage dans le Périgord.
Voilà, alors j'ai picoré cet atlas historique, enfin je l'ai picoré pour les exemples de cette interview. Est-ce qu'il y a une carte, Christian Grataloup, qui vous tient, une ou plusieurs, qui vous tiennent particulièrement à cœur?
Ah, c'est difficile que vous me demandez. J'aime beaucoup la double page consacrée à l'affaire Dreyfus, parce que c'était effectivement important, je crois, de montrer ce moment. Et c'est pas forcément évident.
Paris,
pas forcément de le traduire en carte. Mmh. Or, effectivement, dès qu'on creuse, tout est spatial. Et donc, on a des lieux parisiens. On a bien sûr le bagne en Guyane. Donc, le voyage, les étapes de cela, le retour de Dreyfus. Donc, et puis surtout, les émeutes antisémites, les élections de députés antisémites qui se produisent dans ce contexte-là.
Le lycée qui est un foyer antisémite, qui est le lycée Jean-Baptiste Sey, dans le 16e arrondissement de Paris, et toutes les cartes. C'est donc l'Atlas historique de la France, publié par les Arènes avec la revue Histoire. Mais on vous doit aussi un autre livre réjouissant, ce cabinet de curiosité, l'histoire du monde, chez Armand Collin, où on découvre des histoires qui sont liées à des objets et à la mondialisation. On découvre par exemple que le pouce-pouce a été introduit en Asie sous influence européenne, ou que l'anse de Tasse a été inventée en Europe au XVIIIe siècle, etc., etc. Vous êtes un inlassable
oui.
curieux,
c'est Christian Grattalou. Hein. Je tiens plusieurs chroniques, là c'est celle de la revue La Géographie, la revue de la Société de Géographie. J'en tiens aussi dans la revue Carto, des petites chroniques qui racontent l'histoire mondiale à partir d'un petit objet. Le recueil que vous avez en main, là, commence par le trou de l'aiguille, le chat de l'aiguille.
Le chat de l'aiguille,
et
oui.
Effectivement, sans le chat de l'aiguille, pas de vêtements cousus, sans vêtements ajustés, pas de possibilité de passer par la Sibérie et donc pas de peuplement de l'Amérique. Voilà. Donc vous avez des petits, tout petites inventions, car ça date du paléolithique, grand effet.
Voilà, 1000 histoires avec vous, donc dans ce cabinet de curiosité de l'histoire du monde chez Armand Collin, et puis dans cet ouvrage qui, j'en suis sûr, va rester un ouvrage de référence comme l'Atlas mondial, l'Atlas historique de la France, publié aux Arènes. Merci beaucoup Christian Grattalou
d'être
venu nous voir. Merci.